Et alors, nous passons à la face B de la quatrième cassette. Et toujours sur ce thème du manque de leadership spirituel dans l'Église, vous connaissez ce texte des Actes des Apôtres, 6, 2, 4, où les apôtres se plaignaient d'être accaparés par le service des tables. Et je cite, « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour le service des tables. Cherchez plutôt parmi vous des personnes de bonne réputation, remplies de l'Esprit Saint et de sagesse, nous les chargerons de cette fonction. Quant à nous, apôtres, nous continuerons à assurer la prière et la parole de Dieu. » Sur ce point cristallin, un petit commentaire. Il dit que pour les successeurs des apôtres, nos évêques d'aujourd'hui, cette menace est encore réelle et même beaucoup plus grave. En effet, précise Cristallin, les tables se sont multipliées et diversifiées et chacune est devenue captivante à sa manière en multipliant ses otages. On a ajouté aux tables des repas des premiers apôtres les tables d'administration, les tables de réunions multiples, les tables de calcul financier et économique, les tables d'aide aux pays aux plus démunis, les tables d'écoute et d'information, les tables de concertation avec les autres, et les tables encore tout court de célébration fraternelle, d'agape, légitime certes, mais astreignante quand même. L'inquiétude donc, dit-il, des premiers apôtres, à savoir le danger de négliger la parole de Dieu à cause du service des tables, est encore bel et bien fondée, car ils sont invités à s'attabler davantage. Et hélas, cette conséquence est plus grave que jamais, et ce, malgré la prolifération des diacres en Église. Mes chers amis, je terminerai ce point en illustrant concrètement, ici je m'adresse plus particulièrement à l'Église du Québec, ce manque regrettable de leadership spirituel chrétien, en particulier depuis 50 ans, de la part de nos chefs spirituels, à quelques exceptions près, a eu chez nous de lourdes conséquences. On a raté, coup sur coup, deux occasions en or, magnifiques, complémentaires de nous repenser, ressaisir et relancer en tant qu'Église vraiment nouvelle et missionnaire. Les deux occasions se sont présentées à nous au cours de la même décennie, celle des années 60. Primo, ce qui s'est appelé la Révolution tranquille du Québec, amorcée, comme on le sait, par notre élite politique et intellectuelle. Secundo, la fin de Vatican II, 1965, et la suite à lui donner en profondeur en notre Église. Deux occasions, coup sur coup, rêvées, qui s'interpellaient l'une l'autre, se complétaient et lançait deux défis exceptionnels à notre Église du Québec. La Révolution tranquille offrait à l'Église une occasion de dépouillement, d'allègement et de retour à l'essentiel de sa mission et de ses moyens. Vatican II nous conviait en Église à un renouveau en profondeur des esprits et des cœurs, pas seulement des documents, à des options vraiment neuves, à un style de pensée et de vie en Église tout différent. Or, on a raté en bonne part les deux. On a écrémé et désossé Vatican II, n'en tirant souvent que des avantages incomplets et secondaires. Et 25 ans après, aujourd'hui, le plus dur et le plus pur du Concile Vatican II, comme je l'expliquerai plus loin, est encore à venir. Quant à la révolution, la célèbre révolution tranquille, j'en reparlerai dans une cassette intitulée « L'Église et notre démolition tranquille au Québec ». PH 2, 19 et 20. Incidemment, pour être d'actualité, je crains fort qu'on soit en train d'en rater une troisième, et d'importance elle aussi. La crise constitutionnelle sévère que nous traversons au Québec et au Canada se concentre autour de ce qui s'appelle les accords du lac Meech. C'est le lieu où ces accords ont été signés entre tous les premiers ministres des diverses provinces et le premier ministre du Canada. Même s'il est inévitable que les francophones, les anglophones, les allophones ou les aborigènes en fassent une interprétation et une application variées et variables, il n'en demeure pas moins désastreux que le climat de discussion et d'argumentation soit devenu aujourd'hui si malsain et si peu chrétien. Or, où est notre leadership spirituel chrétien dans les circonstances, dont le peuple aurait tant besoin encore une fois? Dormons-nous? Sonnons les matines. À un mois de l'échéance, au moment même où je vous parle, c'est encore le grand vide, le lourd silence de l'Église. Non pas que l'Église ait à prendre une position politique en la matière, à prendre pour ou contre le lac Meech, mais l'Église a à nous rappeler, à nous tous baptiser le lac de Tibériade et les enseignements qui ont été promulgués par notre Christ Sauveur. Et en jouant son rôle évangélisateur, l'Église aurait pu et dû nous aider à climatiser les cœurs et les esprits, sans s'ingérer politiquement dans le débat, et nous éviter la panique actuelle généralisée. Parfois, on a l'impression que notre Église n'a plus ses réflexes de foi, de prière, qui savent réagir vite et bien. Corrigez-moi si j'ai tort, mais sincèrement, je ne crois pas qu'un appel de nos chefs spirituels au jeûne et à la prière, au respect mutuel dans la charité, la vérité et la liberté d'inspiration chrétienne, une exhortation spéciale à nous baptiser chrétiens, et c'est la majorité des gens au Canada, à vivre davantage dans la vraie charité fraternelle commandée par Jésus, où, avec sa grâce, on doit en arriver à aimer pas seulement nos amis, mais même ceux qui nous semblent ennemis, je ne crois pas qu'un tel leadership spirituel ait été nuisible ou inutile. Et vous, qu'en pensez-vous? Passons, si vous le voulez bien, au troisième point, la troisième force négative en Église. Mes amis, il y a encore en Église, notre Église, au Québec et partout ailleurs, encore trop, beaucoup trop, de cléricalisme, d'autoritarisme. Encore trop, beaucoup trop de formalisme, de légalisme. Encore trop, beaucoup trop d'arrivisme et de néo-népotisme. Je pourrais à la rigueur me contenter de cette déclaration sans rien ajouter, tant vous comme moi en avons fréquemment la preuve. En effet, ces comportements malheureux continuent, hélas, à se manifester chaque jour dans la vie courante de l'Église, et le nombre de leurs victimes, blessées légèrement ou gravement, ne cesse d'augmenter. Disons cependant et rapidement un mot de chacun de ces travers qui ont en définitive toujours la même double origine, la vie à la course et l'insécurité consciente ou inconsciente, peu importe, qui est un héritage inévitable du style actuel en Église. Jadis, l'autoritarisme et le cléricalisme en Église étaient beaucoup plus perçus parce qu'il s'adressait à plus de gens. Il débordait l'Église institution et se faisait sentir dans bien d'autres milieux. Maintenant, on est plus réservé. On fait bien attention à ce que l'autoritarisme et le cléricalisme ne débordent pas trop les milieux strictement religieux et ecclésiastiques. Et comme ceux-ci sont de plus en plus restreints, on a peut-être eu l'impression que le cléricalisme et l'autoritarisme s'étaient peu à peu dissipés. Or, croyez-moi, ce n'est pas le cas. Toute proportion gardée, l'autoritarisme et le cléricalisme sont aussi coriaces qu'avant et sont aussi décevants et provocants, regrettables et dommageables qu'avant. Et ce sont souvent les plus engagés et renouvelés spirituellement en Église qui, bien souvent, hélas, en écopent. Ceux et celles qui agissent à leur guise, font à leur tête, naviguent au large, bénéficient, eux et elles, au contraire, d'une tolérance spéciale au nom du respect des personnes et des opinions post-conciliaires. Arrêtons-nous d'abord à l'autoritarisme. Il règne encore de façon générale, sous une ou des formes plus discrètes, j'en conviens, mais avec non moins de poigne. En effet, l'autoritarisme en diocèse, en paroisse, en communauté religieuse et en œuvre s'exprime peut-être avec moins d'éclat. Il y a peu de coups de crosse spectaculaires, mais souvent, hélas, avec autant de dégâts. Vous savez que l'autorité s'emporte et pontifie, ou qu'elle parle avec grand calme et douceur dans la voix, cela en définitive est bien secondaire pour celui ou celle qu'on tasse ou casse pratiquement sans appel ou sans merci. Or, ils et elles sont encore multitudes, ces laïcs, prêtres, religieux, religieuses, victimes actuelles de comportements par trop autoritaires en Église de la part de leurs chefs de file, par ailleurs bien intentionnés, dévoués et compétents. Dans l'enseignement sur cassette que je mettrai en circulation, je reviendrai en termes non équivoques sur ces procédés pas trop catholiques qui détruisent non seulement le visage de l'Église, mais son cœur et son âme. Je vous l'assure, le style sanhédrin, entre autres, n'est pas mort, loin de là. L'autoritarisme dégénère vite en contrôlite et en soupçonnite, dont les prêtres et les fidèles se plaignent amèrement, et en certains coins de notre Église, plus que jamais. Contrôlite en ce sens que tout, ou beaucoup trop, est contrôlé, censuré, précisé, épié par le centre diocésain, laissant peu ou trop peu de spontanéité et de liberté à la base locale des paroisses ou des mouvements. Et dans bien des diocèses, au pays comme ailleurs, les curés et les vicaires s'en plaignent amèrement. La soupçonnite, même si Vatican II et le droit canon sont très explicites sur la liberté des fidèles, clercs et laïcs, d'exprimer leurs élans de vie et de ferveur spirituelle et apostolique en Église, il existe encore trop souvent un courant d'air de soupçon, de méfiance envers ces pasteurs et ces fidèles qui s'expriment et procède sans avoir obtenu d'avance un blanc-seing en 3 copies. On leur fait sentir ou dire que leur agissement n'est pas d'église, qu'il s'agit d'églises parallèles. Et on pourrait ajouter dans cette série de maladies satellites la comparaisonite, la compétitionnite, qui surgissent par voie de conséquence là où la contrôlite et la soupçonnite sont apparues. Cristallin, en boutade, dit « Je rêve d'une église qui soit une école à devenir enfant et non un lieu où on est traité en enfant d'école. » Le cléricalisme. Il y a diverses façons d'exercer son cléricalisme. Il y a le cléricalisme institutionnel, il a passablement diminué. Il y a le cléricalisme individuel, qui correspond à la mentalité des personnes. Lui existe encore et il est tenace. Il y a le cléricalisme pratiqué par les clercs, puis il y a aussi le cléricalisme imposé par les laïcs, ou que s'imposent des laïcs. Vous savez, le cléricalisme ne manque pas d'imagination. Et je peux dire que si autrefois, le clergé avait tendance peut-être à s'imposer avec autorité, il a laissé son cléricalisme se métamorphoser et aujourd'hui, ça prend la forme non pas de s'imposer, mais de s'opposer. Beaucoup de clercs actuellement, un peu pris de court par toutes les initiatives nouvelles qui se lèvent en Église, ont trouvé la manière de s'imposer ou de s'opposer avec autorité à ces initiatives de nouveau renouveau spirituel, mystique et communautaire. Tout simplement parce que cela n'entre pas dans leur connaissance ou leur expérience personnelle de vie. Et que de fidèles, vraiment inspirés par l'Esprit du Seigneur, se heurtent ainsi et se font blesser par cette forme de cléricalisme d'opposition, de fin de non-savoir, de non-recevoir. Ou encore une autre forme de cléricalisme à la mode, en s'abstenant, par abstention, non pas par opposition, mais par abstention, de participer, de s'associer, d'encourager par leur présence et leur exemple nombre d'initiatives ferventes et heureuses, certains, devant la requête persévérante des fidèles, finissent par concéder qu'il y ait des temps d'adoration du Saint-Sacrement, par exemple, mais se contentent d'exposer et de déposer le Saint-Sacrement, obligeant les fidèles à prier en présence réelle du Seigneur, mais en absence réelle du pasteur. Il y a encore beaucoup de formalisme en Église. Qu'est-ce que c'est que le formalisme? C'est cet attachement excessif aux formalités, à ce qui est extérieur. On devient vétilleux, c'est-à-dire on s'attache à des vétilles, aux moindres choses, aux détails, aux bagatelles. Il y a encore beaucoup de légalisme, ce respect absolu de la loi religieuse, de sa lettre. On tombe souvent dans une espèce de rigorisme. Les pharisiens juifs qui tenaient à la stricte observance de la loi. Il y a également beaucoup trop de, je dirais, de néo-népotisme. Bien entendu, le néo-népotisme ne se pratique pas comme il y a des siècles et des siècles. Il a adopté lui aussi une forme moderne, différente. Il ne s'agit pas tant de bien placer dans l'Église ses propres neveux et nièces selon la chair, mais quand même de placer les siens. Et il y a encore beaucoup trop d'autorités, à mon avis, qui choisissent et imposent à toute fin pratique, leur successeur. C'est tellement bien chauffé à blanc et forgé que ça laisse peu ou pas de chance aux autres candidatures. Et c'est ainsi qu'on voit dans des communautés religieuses ou dans certains diocèses s'établir certaines dynasties ecclésiastiques ou religieuses. Où un diocèse se trouve avec le même air de famille pendant 50 ans, communauté religieuse pendant 30, 40 ou 50 ans. C'est bien intentionné, mais pauvre Esprit Saint, que de difficultés cela lui cause. Il y a en Église également beaucoup d'arrivisme, c'est-à-dire cette démangeaison, ce goût non maîtrisé, qu'il soit conscient ou déclaré, peu importe, d'avancement, de promotion, d'où la tentation de succomber aux calculs, aux stratégies. Même si Dieu est vraiment le seul à connaître qui et combien succombe à cette subtile tentation, nous ne pouvons, surtout ceux qui, comme moi, ont eu la chance de circuler dans tous les corridors et à tous les étages de notre institution ecclésiale, nous empêcher de constater que ce mal sévit encore en bien des lieux. Bien entendu, je termine ce point là-dessus, il y a ici des exceptions très heureuses. Vous connaissez sûrement comme moi, et j'en connais plusieurs, des chefs de file dont la vie est équilibrée par des temps suffisants de prière, de réflexion, de calme et de repos, et qui ont bâti par conséquent leur sécurité sur le roc, écrit avec un grand R, c'est-à-dire non pas sur leur talent et leur force personnelle ou sur leur prestige fonctionnel, mais véritablement en Dieu, comme source première et constante de leur lumière et force. Ces chefs-là ne succombent pas, ou beaucoup moins, au cléricalisme, autoritarisme, formalisme, légalisme, néo-népotisme ou arrivisme, qu'engendre et attise inévitablement, comme je viens de le dire, la vie à la course et l'insécurité de fond. Passons à une quatrième force négative. Celle-ci s'intitule « Notre présence au monde » se fait souvent, hélas, au détriment de notre présence à Dieu. Vous connaissez comme moi cette exhortation de Vatican II qui a demandé d'avoir une Église plus incarnée et plus présente au monde. L'intention est excellente. Ces objectifs remis de l'avant par Vatican II sont importants. Et dans le passé, il est sûr et certain qu'on a eu trop tendance à être absent des problèmes et des activités concrètes du monde. Parfois même, on tombait dans l'évasion, la fuite, le désengagement. Mais, mes chers amis, maintenant, on est tombé dans l'extrême opposé, l'excès contraire. Sous prétexte d'être davantage présent au monde et de s'incarner dans le monde, on s'est distancé peu à peu. On s'est coupé bien souvent, sans s'en rendre compte, de celui, le Seigneur, qui est lui-même l'omniprésent au monde et l'incarnation même au monde. Pour être vraiment, utilement et définitivement présent au monde, il faudrait y apporter l'omniprésence divine à travers nous et nos initiatives. Notre seule présence à nous, dont les qualités et les pouvoirs sont limités, aux œuvres passagères et incomplètes, n'apporte au monde qu'une présence humaine, secondaire, qui ne fait pas du tout le poids devant les défis et les misères de notre humanité qui souffre et se désespère. Pour être vraiment incarné dans le monde, notre Église doit y incarner véritablement le Sauveur parmi nous. Seule son incarnation à lui, continuer à travers nous ses disciples, est et sera œuvre de salut valable. Or, trop souvent, ce qu'on appelle notre incarnation dans le monde n'est en définitive qu'une œuvre cosmétique, un effort de beauté spirituelle, une brillantine de surface qui finit par fondre et il faut continuellement comestiquer à nouveau. L'incarnation de lui à travers nous est la seule qui portera véritablement des fruits qui demeurent. Comme à Noël, chaque jour doit nous permettre d'accueillir son incarnation en nous et nous de l'incarner dans le monde. J'entends encore cette exclamation de Cristallin qui dit que notre cosmétologie, c'est-à-dire la science des cosmétiques, devrait céder la place à une meilleure christologie. En effet, mes amis, il faut être, et je le mets entre guillemets et en deux mots, à part d'abord du monde, quant à nos options, valeurs, procédés et priorités, si on veut ensuite, comme Église, jouer notre rôle et être un, entre guillemets, à part au monde. Autrement, notre message et nos messagers risquent de livrer les mêmes choses que les autres. Rien de plus. Du pareil au même. Donc, des valeurs, des priorités, des idéaux que le monde a déjà plus ou moins et peut se procurer ailleurs et autrement qu'en Église. Donc, rien d'original, d'exclusif et de valable. Or, présentement, croyez-moi, l'Église est, dans bien des milieux, ni un à part, ni un à part. Elle est devenue trop souvent, hélas, sur le marché spirituel, aux yeux de bien des gens, une entreprise, une valeur, une cause, un groupement parmi bien d'autres d'inégales valeurs. Normalement, si nous étions de vrais témoins du Christ, ce qui est de mauvais dans le monde serait tenu en respect par la bonne nouvelle. Or, c'est l'inverse qui arrive. Une multitude de témoins du Christ sont tenus en respect par les mauvaises nouvelles du monde. Et ce sont, pas seulement dans la société moderne, mais dans les milieux ecclésiastiques et religieux qu'on retrouve ce bâillonnement. On préfère alors se taire sous toutes sortes de beaux et faux prétextes pour ne pas déplaire, par prudence, par souci d'unité, par respect des autres. Mes amis, en principe, il n'y a pas et il ne doit pas y avoir d'opposition entre sa présence au monde et sa présence au Seigneur. Mais, pour que les deux soient réussis à merveille, comme il se doit, les flèches de circulation doivent être tournées dans la bonne direction, celle où chacun de nous tourne d'abord vers le Seigneur, il nous remplit de ses lumières, inspiration, force, grâce, il nous remplit d'amour, de joie et de paix, et nous envoie ensuite les déverser en son nom dans le monde. Cinquième force négative, et celle-ci à mon avis. À toute fin pratique en Église, très peu osent ou savent se tenir debout en restant sur place. Comme vous le savez déjà, ou peut-être je vous l'apprends, l'Assemblée des évêques du Québec vient de lancer une invitation pressante à tous les baptisés à prendre la parole en Église et à exprimer leurs expériences et leurs aspirations, contribuant ainsi à l'élaboration de voies d'avenir. Fin de la citation. Bravo, bravissimo. Félicitations chaleureuses à notre épiscopat pour cette audacieuse initiative. Cette rencontre ouverte avec le peuple de Dieu était vraiment désirée et due depuis bien longtemps. À la vérité, depuis la fin de Vatican II en 1965. Je souhaite le plus grand succès à cette consultation, qu'on appelle ici une recherche participative. Qu'elle se poursuive, j'en prie le Seigneur, dans la charité, la vérité et la liberté, toutes trois à 100%. Évidemment, il faudra s'attendre à ce que, si le peuple de Dieu s'y intéresse, et il le devrait, et je le souhaite, que le peuple de Dieu va à son tour nous adresser à nous du clergé et de l'épiscopat sa propre invitation à savoir écouter, comprendre et apprendre. Évidemment, et on le comprend, les gens vont s'attendre également à ce que cette consultation ait des suites, un lendemain, sur Terre, et de leur vivant en tant que possible, en plus d'en avoir dans l'éternité, bien entendu. Également, souhaitons que cette recherche participative ne se limite pas seulement à la paroisse, mais s'intéresse à toute l'Église dans son ensemble. Car, c'est évident, la communauté locale paroissiale en est à la fois une ligne de départ et une ligne d'arrivée. Et on ne peut pas s'interroger sur la paroisse sans la situer dans le grand contexte de l'Église. J'avoue cependant que cette vaste consultation ou concertation, si bien intentionnée et préparée qu'elle puisse être, ne sera pas un succès instantané et facile. Et pourquoi? Parce que en Église, sont rares ceux et celles qui ont appris à s'exprimer et à s'exprimer de la bonne manière, sans finir ou par ravaler leur intervention, s'écraser ou capituler, ou par s'emporter et se révolter, voire même claquer la porte et quitter. À la vérité, on ne nous a pratiquement jamais, ou très peu, souvent, invités, enseignés et encouragés à nous exprimer en Église. Et ceux et celles qui ont osé le faire, devant souvent s'improviser, l'ont fait à leur risque et dépens. Et hélas, beaucoup, avouons-le, se sont fait malheureusement échauder dans leur expérience. Plusieurs en sont même sortis blessés et déçus. D'autres écrasés ou hypothéqués. Vous savez, en réalité, avec les années, pour ne pas dire les siècles, il ne s'est développé et établi en Église que deux seules voies, V-O-I-X, ou voies, V-O-I-E-S, d'expression. Celle de la complaisance, que j'appelle pour les fins de l'exposé la première voie, ou celle de la défiance ou méfiance, que j'appelle la deuxième voie. En Église, la plupart du temps, il faut ou il fallait être ou tout à fait pour ou tout à fait contre. Il n'était pas et il n'est pas encore permis ou bien vu, du moins en certains milieux ecclésiastiques ou religieux, d'être à la fois d'accord sur certains points et dissident en même temps sur d'autres. On se fait alors interpeller, es-tu pour ou es-tu contre? Branche-toi au plus vite. Es-tu avec nous ou contre nous? Pour plusieurs autorités, et encore ici, je précise qu'il y a d'heureuses exceptions, il n'y a à toute fin pratique que deux groupes possibles dans le bercail dont ils sont les bergers et les pastats. Il y a les moutons de Panurge ou les moutons qui s'insurgent. Si tu ne dis pas oui, amen, alléluia, à tout et à tous, ou à peu près, tu deviens un pas bon, un esprit fort, dangereux, dont il faut se méfier. Et alors, on tente, par des moyens qui ne sont pas toujours catholiques, de te faire rentrer dans le rang. Un rang dont, en fait, cette personne n'est jamais sortie et n'entend pas sortir. En Église, les autorités ont développé avec le temps des mécanismes de comportement et de défense, des styles de réaction classiques face à ces deux types de voix, V-O-I-X, V-O-I-E-S. On apprécie évidemment le premier, on le cite même en exemple, on amortit et on dénonce le second. Mes amis, l'heure est venue de recommander et d'encourager l'exercice d'une troisième voie, V-O-I-X, V-O-I-E, d'expression en Église. Depuis 15 ans, je l'ai vu, cette troisième voie d'expression, faire non seulement ses preuves, mais opérer des miracles en Église, et tout particulièrement au sein et dans le rayonnement de nos fondations, où ce style d'expression à base de 100% de vérité, de charité et de liberté d'expression a été moult fois enseigné, favorisé et soutenu. Et je vous réfère ici, pour ne pas prolonger ce thème, à un enseignement majeur d'accompagnement justement sur ce sujet. Il sera intitulé « La troisième voie, V-O-I-X, V-O-I-E et V-O-I-T en Église ». Son numéro sera 08-B1-04. Cristallin, qui s'intéresse à toutes ces choses, nous souligne que, en Église, notre faune ecclésiale est quelque peu débalancée. Il y a trop de mollusques spirituels qui s'écrasent facilement ou se replient rapidement sur leur coquille par rapport au nombre de crustacés spirituels dont on aurait besoin pour le vrai combat spirituel. Donc, beaucoup plus de fidèles invertébrés au corps mou qui sont enfermés dans une coquille que de fidèles à carapace, capables de se défendre et même de passer à l'attaque, comme les crabes et les homards. Pour plusieurs, vous savez, et à tort ou à raison, ils trouvent que c'est plus étouffant que jamais en notre Église. En ce sens que, si jadis, c'était étouffant pour celui ou celle qui n'avalait pas tout rond le tout-cuit spirituel qu'on lui servait d'autorité, aujourd'hui, c'est plutôt devenu étouffant pour celui ou celle qui désire apprêter lui-même ou elle-même du spirituel nouveau ou renouveau. On ne l'encourage pas, on hésite longtemps, on veut tout contrôler, on le met et remet en garde au nom soi-disant de la prudence, mais souvent par peur, ignorance ou inexpérience. On freine, on stoppe une multitude de spontanéités de l'Esprit du Seigneur. Quand, par ailleurs, des gens vous arrivent avec des projets sociaux, culturels, politico-économiques qui embarquent veut-veut pas l'Église, ça passe beaucoup plus vite. C'est précis et on aime que l'Église s'y implique. Mais les initiatives concentrées sur le bien de l'âme, des âmes, leur sanctification, leur salut éternel en tant que tel, là, il ne faut pas aller trop vite. Pas trop risqué, pas risqué. Mettre la sourdine, placer le tout en quarantaine. Au lieu de croire et de plonger, après évidemment un bon discernement spirituel et communautaire si possible, on attend. Attendons voir. On attend pour voir si les fleurs et les fruits n'apparaîtraient pas, miraculeusement sans doute, avant qu'on ne risque de planter l'arbre. Je voudrais enfin sur ce point dire un mot sur un de nos défauts mignons croissant en Église, l'intolérance, mes amis. Je pense, et vous serez d'accord avec moi, qu'avant Vatican II, on aurait pu, avec assez de raison, dire de notre Église qu'elle était une sainte catholique, apostolique, romaine et intolérante. Elle l'était, ad extra. Face aux autres frères et sœurs hors de l'Église catholique. Elle l'était également à l'intérieur entre nous. Mais depuis le Concile, si elle l'est de moins en moins vis-à-vis des autres à l'extérieur, hélas, il faut bien le confesser, nous sommes de plus en plus intolérants à l'intérieur entre nous. Est-ce un transfert? Est-ce un souci de progrès mal compris? Est-ce du puritanisme, de l'intégrisme de gauche comme de droite, de l'intransigeance? Est-ce une faiblesse de notre fibre communautaire, de la pratique de la vertu de charité? Peu importe. Chose certaine, cette intolérance entre nous est grave et s'aggrave. Et elle devient de plus en plus conséquente, notez bien, à l'heure où nos frères séparés à l'extérieur, se sentant mieux compris et mieux aimés de notre part, nous observent de plus près que jamais. Et beaucoup sont conduits dans des doutes face à un retour possible avec nous, scandalisés par notre intolérance entre chrétiens. Et voilà, mes chers amis, je pense qu'aujourd'hui, nous avons fait du bon boulot. Je termine en disant, regardez ces belles fleurs ici, mises sur la tribune, et rappelez-vous du bon sucre à la crème que notre vice-présidente a mis à votre disposition tout à l'heure pour terminer cette journée en pensant que dans notre Église, même si je dois dénoncer des travers, il y a beaucoup de beau, de bon, de variété, de couleur, de bonne odeur comme ces fleurs. Amen. Alléluia.